Attends, c'est du verre quoi? Du verre canard?
Si vous voulez, le verre des verres correspond, comme par hasard, au verre de l'islam.
Ou un verre sapin?
Bonsoir, Michel Sapin.
Verre émeraude. Ou peut-être verre bouteille.
Il n'y a plus rien à boire.
Du verre pomme? Ah, je sais. Verre kaki.
Calmez-vous! Et calmez-vous!
Non, non, je vois. Je sais.
Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir.
Mais attendez, vous,
non,
vous trouvez
oui.
ça normal?
C'est du verre bouteille!
Allez-vous cultiver scientifiquement?
Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème.
Retraite, climat, même combat.
Bonjour, c'est Lucie. Je suis journaliste indépendante en Bretagne et chaque mois sur Canal B, Radio Boa et Deezer, je vous parle d'écologie pendant une heure. Un programme un peu comme un porte-voix pour mettre en lumière celles et ceux, chercheurs, citoyens, élus ou encore médias, qui font vivre les transitions écologiques et sociales en mode déter. Et alors que le sujet recule dans les médias, eh bien on continue à en parler dans les médias indépendants et à l'antenne des radios associatives. Actualités, interviews, reportages, mais aussi ressources, agenda et musique. C'est le programme à chaque fois de Vert d'Éther, en mode 50 nuances de vert aujourd'hui pour parler des différents répertoires d'action dans les mobilisations écologiques et parmi eux, celui de la désobéissance civile. On va donc remettre les points sur les i face au dévoiement de ce concept. C'est parti. Et on commence avec l'info repérée pour vous dans l'océan vert empire de l'information. Mais là, ce qui est chouette, c'est que c'est une actualité repérée dans un média indépendant, à savoir les blogs de Mediapart. On y retrouve donc Nicolas Legendre, journaliste et lauréat du prix Albert Londres en 2023 pour une tribune « L'épuration qui vient » ou « Comment l'écologie est devenue une cible ». C'est le titre du texte publié le 5 décembre, donc en ligne. Si vous ne connaissez pas Nicolas Legendre, je vous conseille la lecture du livre « Silence dans les champs », le résultat d'un travail d'enquête mené sur l'agro-industrie bretonne pendant 7 ans, notamment à travers son travail de journaliste pour le quotidien Le Monde. Et pour finir de le présenter, Nicolas Legendre est également fils de paysan et vit toujours en milieu rural en Bretagne. Sa tribune, elle commence avec des mots, notamment ceux assez flippants du nouveau président de la coordination rurale. C'est le deuxième syndicat agricole français. Ouvrez les guillemets, les écolos, la décroissance veulent nous crever, nous devons leur faire la peau. Les mots tout aussi flippants de gendarmes en intervention à Sainte-Soline en 2023. Ouvrez les guillemets toujours, je ne compte plus les mecs qu'on a éborgnés. Faut qu'on les tue. Nicolas Legendre, il pourrait multiplier les exemples de ce genre, car je cite, « Chaque semaine, charrie son lot de violences à l'encontre de celles et ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se définissent comme écologistes ou sont identifiés comme tels. Les écologistes ne sont donc plus de simples adversaires, mais des ennemis que l'on compare aux pires dictateurs sanguinaires, à qui l'on peut promettre la mort sans que cela déclenche l'activation de quelques cellules gouvernementales d'enquête et d'assistance. » Le journaliste, il observe finalement que le doute, la honte de soi et l'effroi ont gagné une partie des militants écologistes et c'est ainsi que commencent les épurations, prévient-il. Donc, il le rappelle, les écologistes, ça n'existe pas. L'écologie est un concept fourre-tout qui rassemble des citoyens sensibles à la faune, à la flore, au paysage ou aux pollutions, ainsi que des scientifiques, des naturalistes, des membres de partis politiques, mais aussi des militants, ainsi que, il faut le rappeler, bon nombre d'agriculteurs et d'agricultrices. Une fois la catégorie essentialisée, réduite, l'étape suivante, c'est de l'accuser de maux en tout genre, puis, je cite, de tirer à vue pour les laisser s'affaiblir eux-mêmes. Pourtant, nous ne pouvons pas continuer ainsi. C'est matériellement, biologiquement impossible. Mal-être des agriculteurs, écueil des élus et militants écologistes, puisqu'il faut aussi le reconnaître, industriel tout-puissant. Pour lire l'analyse complète de Nicolas Legendre sur la contre-offensive anti-écolo en France et en Europe, bien c'est simple, je vous laisse aller retrouver l'intégralité du texte qu'il a signé et qui est donc en ligne sur blog.mediapart.fr. Vous écoutez Vert d'Éther sur Canal B, Radio Boa ou en podcast sur Deezer. Une émission dans laquelle on parle aujourd'hui des différents répertoires d'action dans les mobilisations écologistes et parmi eux celui de la désobéissance civile. C'est le moment du reportage réalisé à l'occasion d'une proposition du service culturel de l'université Rennes 2. Éloge de la forêt, c'est le nom d'un conte écologique qui a été imaginé par le pianiste Patrick Scheider. Sur scène, on retrouve notamment Thomas Braille qui fait une apparition, l'arboriste grimpeur de profession qui est célèbre pour son engagement contre l'A69 entre Toulouse et Castres. Eh bien, il investit différents types d'actions, toujours pour défendre l'arbre. Une audience décisive est justement prévue là en ce moment, c'est le 11 décembre, pour statuer sur le fond du dossier du projet d'autoroute. La décision devra ensuite être rendue publique dans un délai d'une dizaine de jours. Allez, le reportage avec Thomas Braille et Patrick Scheider aussi, c'est maintenant.
Ah, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Thomas Braille, je suis le fondateur du groupe national de surveillance des arbres. Et depuis peu, je suis le nouveau secrétaire de cabinet du président de la République. Non, mais j'en vois qui rigole. Non, je vous assure, c'est vrai. Il est là-haut avec moi, dans l'arbre. Ouais. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un président fait dans un arbre ? Je vous explique. J'ai rangé mon costume d'éco-terroriste. Parce que, pour être honnête, ça payait pas trop.
Bonjour, je m'appelle Thomas Braille, je suis le fondateur du groupe national de surveillance des arbres. Je suis arboriste grimpeur de profession. Et depuis peu, enfin non, depuis maintenant à peu près un an, plus d'un an et demi, on travaille avec Patrick sur ce spectacle Éloge de la forêt. Et dans ce spectacle, moi, je joue mon propre rôle et je suis le secrétaire de cabinet du président de la République, comme tout le monde sait d'ailleurs, bien évidemment. Et voilà, et ça me permet de dire un petit peu les choses différemment que quand je les dis dans les médias nationaux ou parfois internationaux, ça arrive. Mais de les dire différemment, de manière plus artistique, ce que j'aime faire aussi, puisque moi je fais de la musique depuis une trentaine d'années, et puis j'ai aussi fait du théâtre. Donc voilà, c'est une façon de raconter différemment aux gens, peut-être de leur donner envie de s'investir et de nous rejoindre d'une autre manière, et d'une manière peut-être un peu plus sexy que de se retrouver dans des manifs, être encerclé par les forces de l'ordre sous les gaz lacrymogènes et peut-être finir en garde à vue. Donc c'est un peu plus marrant, quoi, on va dire. Voilà.
Le spectacle, il commence sur une histoire emblématique qui est l'histoire des peintres de Barbizon, dans la forêt de Fontainebleau, à 70 km de Paris, qui étaient des artistes, donc, et qui, avec le soutien de Georges Sand et aussi de Victor Hugo, ont sauvé finalement cette forêt d'abattage. Patrick Scheider, pianiste, compositeur, et puis j'ai créé le mouvement de l'écologie culturelle il y a 3 ans et demi. Donc en fait, en France, ceux qui ont défendu ce qu'on appelait la nature, le vivant, ça a été des artistes à une époque où les scientifiques et les politiques étaient très absents du débat. Donc on a une vraie légitimité à dire on peut toucher autrement que par la science. Faisons comme au 19e siècle, où il y a eu d'autres arguments qu'on pourrait maintenant dire, ils étaient juste romantiques, c'était juste des rêveurs. Oui, mais c'est ça, quand on avait la décision. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a d'autres moyens d'action, pas seulement, je sais pas, s'attacher avec des menottes aux grilles du Palais Bourbon, mais aussi convaincre autrement. Et la beauté, l'amour, c'est des arguments de conviction qui sont très importants, parce qu'ils touchent à l'intimité de la personne. Il faut arrêter de parler d'écologie toujours en termes planétaires, universels. Oui, mais nous, je veux dire, la personne est en droit de se dire « Et moi, qu'est-ce que je veux ? Et moi, qu'est-ce que j'aime ?» Donc il faut retourner l'écologie vers l'intimité et pas toujours sur des discours qui sont finalement, dans une certaine mesure, perçus comme vagues, désincarnés et du coup ennuyeux. Donc on ne les écoute plus. Et se méfier aussi du fait de ne pas toujours répéter la même chose de la même façon. Ça me paraît vraiment fondamental parce que les neurosciences prouvent que plus on répète une chose de la même manière et moins on l'écoute. Donc il faut arrêter de rabâcher parce qu'au fond, on rate de plus en plus notre cible. Faisons autrement, et je pense qu'on a des chances de gagner.
Un jour, en balade à Fontainebleau, sa forêt de cœur, Georges Sand découvre qu'on va raser la forêt pour de l'argent. Elle ne supporte pas cette absurdité et entre en résistance. Elle publie un texte de 12 pages dans le journal, véritable manifeste écologiste qui alerte sur les dangers de la déforestation. « Si on coupe les arbres, dit-elle, l'atmosphère va s'assécher. L'humain doit mettre un frein à ses appétits. Sinon, il va épuiser la terre. » Elle ajoute aussi, « Mais que vont donc devenir nos enfants dans ce monde-là ?» Face à elle, les politiques de son temps répondent, « Oh, mais à quoi bon s'alarmer ? Laissez-nous donc couper ces arbres. Notre économie en a besoin. Le climat ? Mais on trouvera des solutions. » Cela n'a guère changé.
Comment est-ce qu'on peut résumer votre parcours pour ceux qui seraient passés à côté de votre nom et de votre visage justement dans les médias nationaux?
Mon parcours, c'est 2019 où tout a commencé. J'ai commencé à m'accrocher dans un arbre dans la ville où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, parce que des abattages étaient prévus, donc. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un vrai vide associatif au niveau de la défense des arbres. Et en fait, aujourd'hui, je mets mon métier au profit de la lutte, puisque les grimpeuses et les grimpeurs sont les seuls en capacité de pouvoir grimper les arbres pour les sauver. On a étendu quand même un peu notre mode d'action. On a des juristes maintenant avec nous. On fait de la formation à tout un tas de personnes qui créent des antennes locales un petit peu partout en France. Et voilà, on va aussi dans les écoles, on va dans les universités, on porte la parole un peu partout. Et l'idée, vraiment, c'est, voilà, c'est même des livres, il y a des livres qui sont sortis, qui sont à l'attention des enfants, des adultes. Et ça permet, voilà, de toucher un large public par tous les moyens possibles et inimaginables pour leur faire prendre conscience qu'il faut sauver les arbres aujourd'hui, on en a besoin, quoi.
Je me demandais ce qui avait déclenché votre intérêt pour l'usage de la désobéissance civile, qui est un des répertoires d'action, peut-être en pause pour vous pour le moment, mais comment vous l'expliquez, cet usage-là ?
Alors, ça tombe bien que vous parliez de désobéissance civile, parce que moi, je ne suis absolument pas là-dedans. Je suis dans le fait de faire respecter la loi. Ce n'est pas la même chose. Et théoriquement, ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est pas aux associations de le faire. Ce n'est pas aux bénévoles de le faire. Normalement, c'est à l'État de faire appliquer la loi et à la justice. Il se trouve qu'à chaque fois qu'on part sur des actions, à droite, à gauche, c'est parce qu'il y a une faille au niveau législatif. Et nous, on pointe clairement les articles de loi qui ne sont pas respectés, et c'est pour ça qu'on part s'accrocher dans les arbres. On peut revenir sur la 69, la toute première action que j'ai menée sur la 69, à Vendine, où je me suis accroché dans un platane, c'est parce qu'il n'y avait pas de dérogation au L350-3 du Code de l'environnement, qui est un article de loi qui interdit l'abattage des arbres d'alignement. Donc vous voyez, le jour où je me suis accroché, c'est que la préfecture n'avait pas donné dérogation pour abattage. Donc je sais exactement ce que je fais et pourquoi je le fais, et on sait pourquoi on le fait. Je ne suis pas le seul à le faire, bien évidemment. Et je tiens aussi à rappeler, d'ailleurs, ça viendra justifier mes propos, c'est que j'ai été relaxé il y a à peu près de ça 2 mois par le tribunal de Toulouse, justement parce qu'on m'avait assigné en justice parce que j'avais grimpé les arbres. J'ai justifié le fait que la loi n'était pas respectée, que je m'accrochais dans les arbres. Et la juge a dit, ben, vous êtes relaxé pour état de nécessité climatique. Et c'est très rare, en fait, en France, d'être relaxé pour ça. Alors, bien évidemment, il ne faut pas oublier non plus que je suis un peu médiatisé. Et c'est aussi, ça me protège clairement des attaques. Mais d'autres personnes n'ont pas cette chance-là. Il ne faut pas l'oublier. Et beaucoup de jeunes et beaucoup de garçons et de filles qui, aujourd'hui, ont décidé de défendre la nature ou l'environnement, en fait, on finit souvent en garde à vue ou avec des peines ou de sursis ou des peines d'emprisonnement. Donc ça, c'est assez triste, quoi, aujourd'hui, voilà.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à un engagement écologique, et qu'est-ce qui fait que pour vous, alors c'est en lien avec votre métier, mais l'arbre n'est pas juste un élément du paysage comme pour beaucoup de citoyens parmi nous?
Bah écoutez, moi j'ai peut-être pris conscience que rapidement, que si j'échange avec vous maintenant, là, c'est parce qu'il y a de l'oxygène qui rentre dans mes narines. Cet oxygène-là, c'est pas nous qui le fabriquons. Nous, justement, on en a besoin pour vivre. Mais les arbres, c'est eux qui nous le donnent. Eux, ils absorbent toutes les cochonneries que l'homme et l'être humain balancent dans l'air. Toutes les pollutions des gaz d'échappement de voitures, des pollutions atmosphériques par les grosses entreprises ou les avions ou tout ce que vous voulez, ou les paquebots. En fait, l'arbre, il se nourrit de ça, en fait. Et voyez, comme les cochonneries que l'on envoie dans l'air, voyez le résultat majestueux que ça peut donner quand on regarde un arbre. Par contre, nous, on fait tout l'inverse. Nous, on dégage du gaz carbonique, on absorbe de l'oxygène. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pragmatique. Il faut prendre conscience que l'arbre, s'il n'est pas là, on est mal, quoi. Voilà.
Pour revenir donc au projet d'A69 entre Castres et Toulouse, donc en août 2023, les travaux ont été suspendus suite à une grève de la faim et de la soif que vous avez menée. Ce qu'on lit aujourd'hui, c'est que vous restez vigilant. Les travaux ont repris un peu en catimini il y a quelques temps. 2/3 des travaux seraient terminés pour le moment et il y a une audience qui est prévue pour le mois de décembre après l'annulation des autorisations environnementales. Ça, c'était au mois de février, donc il y a eu un appel. On vous retrouve aujourd'hui sur scène avec une bande dessinée qui est sorti durant l'été, qui s'appelle « Le défenseur des arbres », plutôt pour un public jeune. Ça a été publié chez Actes Sud Jeunesse. Je me demandais si la mobilisation sous forme d'empêchement physique face au projet ça ne pouvait être qu'une étape dans un parcours de vie, parce que ça a un certain coût pour les militants, y compris pour vous.
Oui, oui, bien sûr, ça demande un investissement énorme. Hein. Enfin, honnêtement, moi, j'ai autre chose à faire que d'aller m'accrocher dans les arbres. J'espère qu'un peu tout le monde l'a compris. Moi, je suis pas là pour me faire de la pub. J'en ai rien à faire, en fait. Moi, mon métier, c'est ça, c'est de grimper les arbres toute la journée. Mais normalement, je le fais chez des clients ou pour des collectivités. Voilà, parce que c'est mon métier, c'est de les soigner et de les abattre en tout dernier recours s'ils donnent des signes de faiblesse, parce qu'on laisse pas un arbre dangereux sur le domaine public. Mais oui, c'est sûr, ça mange de l'énergie. Moi, je préfère être avec mon fils, je vous l'ai dit clairement, plutôt que d'aller m'accrocher dans des arbres et expliquer que, en fait, vous faites des grosses bêtises, parce que là, à un moment donné, à force d'en couper, de toute façon, le dérèglement, il est déjà en place, quoi. Les températures caniculaires que l'on a aujourd'hui chaque été, faut pas se leurrer. C'est parce qu'on a un déficit d'arbres sur la planète et que le phytoplancton dans les océans va très mal. C'est les deux matières qui absorbent le dioxyde de carbone sur cette planète. Donc, si des personnes qui ont pas compris ça passent de super étés à 40 ou 42 degrés parfois, ok, mais je pense que ça va pas durer. Notre corps, il est pas fait pour encaisser des chaleurs aussi grandes, quoi, et ça durera pas, parce que même le végétal ne s'adaptera pas à un moment donné. Ça se fait sur des centaines, voire sur des milliers d'années, les bouleversements. Donc, faut pas croire, les arbres, ils sont, chaque été, on a des pertes, on a des descentes de cimes, on a des arbres qui sèchent de la cime, on a des arbres qui meurent. Les arbres que l'on replante aujourd'hui dans les villes, en fait, ils passent pas les étés caniculaires, parce qu'à partir de 40 degrés, un végétal ferme son système hydrique, il n'est plus en capacité d'absorber l'eau qu'on lui donne. Tout ça, c'est un peu compliqué à comprendre quand je le dis comme ça. Mais je pense que les personnes qui plantent des arbres ou qui plantent des végétaux aujourd'hui s'aperçoivent que, il y a de la mortalité. Donc voilà, le cycle est en route, mais c'est à nous d'inverser la tendance. Les arbres, ils attendent juste que l'on se réveille. Voilà, parce que les arbres sont éveillés depuis longtemps, en fait, contrairement à nous, quoi.
J'ajoute, ça a été évoqué dans plusieurs articles de presse, que vous avez été aussi l'objet de menaces. Donc même si la médiatisation dont vous avez parlé, elle a des avantages quand vient le moment de se défendre et comporte aussi ses risques, est-ce qu'il y a un arbre, dans votre vie qui est plus important que les autres ?
Déjà, moi, il y a tous les arbres qu'a planté mon père, quoi, auxquels je tiens énormément, ça c'est sûr. On plante les arbres, on ne les plante pas pour soi. Moi, j'ai planté un arbre pour mon fils, mais il est tout petit, c'est un chêne et il fait à peine 3 mètres. Je l'ai planté il y a 10 ans. On plante pas les arbres pour soi, là. Et le meilleur arbre, comme on dit, c'est celui qu'on a planté il y a 20 ans, quoi. Moi, après, c'est les platanes aussi, parce que c'est toujours les arbres que je grimpe le plus, parce que c'est ceux qui sont le plus en danger au final et qu'on abat le plus, soit en bordure de route soit dans les villes. Mais après, moi j'aime tous les arbres, il n'y en a pas un qui me dérange, même ceux qui piquent et qu'on ne peut pas grimper, voilà.
Moi j'habite un ancien prieuré en Touraine, et au milieu de la cour, qui est exposé en plein sud, il y a un marronnier qui doit avoir dans les 120 ans. D'abord il est beau, et puis il est absolument nécessaire, sinon je pense que vraiment l'été on grillerait. Donc on retrouve toute la vertu de l'arbre aussi, qui est d'abord il est emblématique, quelque part il est protecteur. Ensuite, il y a toute une vie, parce que comme les fenêtres, elles donnent carrément dans l'arbre, quoi. Je vois toute ma vie qu'il y a de petits oiseaux, je sais pas trop ce que c'est, des bruits assez incroyables. C'est une deuxième maison, finalement, cet arbre. Et on en prend vraiment conscience en vivant avec lui, finalement. Il semblerait quelque part qu'il respire. Et puis après, comme maintenant, il perd ses feuilles. J'ai un truc banal, mais c'est beau aussi. Il a eu la mine là, du marronnier, la mineuse, voilà. Mais il a l'air de s'en remettre, donc je le vois finalement avoir été malade et puis quelque part peut-être se guérir.
Faut du bon et même du mauvais, m'a dit mon pote dans la gova. La vie elle est con, moi je le savais. Mais ça passe comme ça, on s'en va. Donner des sentiments, c'est attendre en retour. La mort c'est le futur. En veux-tu mon amour? Ils se sont aimés, tous ces gens qui se sont haïs. Ils se font manquer, tous ces gens qui s'en sont partis. T'as beau passer des coups de savon, nous savons que le cœur n'est pas un caleçon. L'apparence extérieure est un leurre, à l'intérieur qui donne les leçons. perdre la boule, le monde ne tourne plus rond. Est-ce un nouveau parcours, demande à Néron. On est d'une espèce rare qui s'attaque à soi-même. À part tes fesses, moi j'ai pas mieux, et la vie est belle. À en perdre la foule, le monde ne tourne plus rond. Est-ce un nouveau tour? Je sais pas si c'est bon. Donne-moi la main,
je vais crever
comme un ballon.
Comme un ballon.
Tu veux voler?
Tu vas avec moi.
Alors volons. On fera des ponts
entre les gens,
forme de sourire. Toutes tes questions,
de se détacher,
de se réunir. Donne-moi la main,
on va boucher
tous les canons.
Tous les...
Tu veux te lever?
J'arrête-moi.
Alors partons. On fera les cons
entre les gens
pour le plaisir. Toutes tes questions,
de s'attacher,
de réussir. À en perdre la boule, le monde ne tourne plus rond. Est-ce un nouveau parcours? Demande à Macron. On est d'une espèce rare qui s'attaque à soi-même. À part ta bouche, moi j'ai pas mieux et ma vie est belle. À en perdre la boule, le monde ne tourne plus rond. Est-ce un nouveau tour? Je sais pas si c'est bon. Donne-moi la main,
je vais crever
comme un ballon.
Comme un ballon.
Tu veux voler?
Va avec moi.
Alors volons. On fera des ponts
entre les gens,
forme de sourire. Toutes tes questions,
de se détacher,
de se réunir. Donne-moi la main,
on va boucher
tous les canons. Tu veux te lever,
plonge avec moi,
alors partons. On fera les cons
entre les gens
pour le plaisir. Toutes tes questions de réussir.
Lagova par O2N à l'instant, un extrait de l'album Doula Hypercouleur qui est sorti le 25 novembre sur le label Universal. C'est le 8e album du trio bordelais que vous retrouverez sur scène, par exemple au festival Les Trois Éléphants au mois de mai 2026, ça c'est à Laval, et au festival Insolent du côté de Lorient le 25 octobre, toujours 2026. Vers des terres continue et on poursuit maintenant avec l'interview de cette émission. Sylvie Olitro, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes politiste, directrice de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et vous avez, entre autres, dirigé avec 5 autres chercheurs et chercheuses la publication d'un dictionnaire de l'écologie politique. C'est paru en cet automne aux presses de Sciences Po. Alors, la sociologie des mobilisations et des protestations constitue le cœur de vos travaux. Vous observez depuis, sur plusieurs générations, en fait, les mobilisations environnementales en France et dans le monde. Est-ce qu'on peut commencer par, donner des exemples de mobilisation auxquels vous vous êtes intéressé?
En fait, je me suis d'abord intéressée vraiment, je dirais, à la France et clairement à la fois aux mobilisations connues en France dans les années de l'époque, c'est-à-dire 70, 80, 90, qui étaient souvent soit au départ anti-nucléaire, puis plus tard contestant l'introduction des OGM. C'est à ce moment-là que je me suis intéressée à la question de la désobéissance civile. Et puis au fur et à mesure, je suis un peu le mouvement. C'est-à-dire que actuellement, c'est beaucoup plus autour des questions de climat, mais aussi des contestations contre les grands aménagements qui contribuent au réchauffement climatique selon les militants et puis surtout participent à l'effondrement de la biodiversité, par exemple. Et quand on dit mobilisation, mouvement socio-écologiste, en fait, ça revêt différents types d'actions. Et ça peut aller, de la protection de la biodiversité au climat, en passant parfois, et par exemple en Bretagne ou dans le Grand Ouest, on connaît les questions de l'eau, eau et rivière, par exemple, qui est une association très connue depuis les années 60 et qui a vraiment œuvré sur la question de la protection de l'eau et surtout de la qualité de l'eau en Bretagne.
Alors, dans le dictionnaire que vous avez imaginé avec d'autres chercheurs, on le précise, à la lettre M pour mobilisation environnementale, vous expliquez que depuis que les chercheurs s'y intéressent aux mobilisations, c'est-à-dire dans le sillage des mouvements antinucléaires des années 70, il n'y a donc pas un mouvement, mais des mobilisations, et qui diffèrent, vous l'avez dit, sur les formes d'engagement, mais même sur l'ancrage théorique, les motivations, ce qui fait qu'on peut employer des termes comme nébuleuse ou comme mouvance, justement pour parler de ce côté un peu insaisissable.
Alors, c'est vrai que bien souvent, y compris mes collègues, voire même peut-être moi-même, on parle des nébuleuses parce que ça donne l'impression qu'effectivement, il y a des formes très disparates qui vont gérer des mobilisations citoyennes locales à des grandes ONG qui ont vraiment un spectre d'action, on va dire, international. En réalité, il y a quand même un socle commun qui fait que, bon, tous ces mouvements, toutes ces actions se reconnaissent dans l'écologie. Je dirais peut-être, s'il fallait un peu caricaturer, mais définir en même temps rapidement, tout le monde se retrouve dans le agir localement, penser globalement. C'est-à-dire dans l'idée qu'il faut trouver des solutions locales ou résister au local, tout en ayant l'idée que ce qui se passe au local, bien souvent, c'est lié aussi à des phénomènes internationaux comme la protection de l'environnement de manière internationale ou encore le réchauffement climatique. Mais il est vrai que de nombreuses mobilisations se produisent et de manière très variée. Et puis, clairement, les mobilisations ou les groupes sociaux ne sont pas toujours d'accord sur les modes d'action ou sur leur manière de faire, ou voire même sur leur, on va dire, leur idéologie.
Ces mobilisations, qu'elles soient menées par des ONG, des associations ou des collectifs, voire des formes encore peut-être plus moins structurées, elles prennent autant la forme de recours juridiques, vous avez cité Eaux et Rivières de Bretagne qui s'en saisit beaucoup de cet outil, que de communication en ligne, mais aussi de manifestations plus traditionnelles, d'actions aussi dans l'espace public, ou encore de blocages, par exemple, de routes. Est-ce que j'oublie certains types d'actions qui peut-être ont pris de la place ces dernières années dans l'espace public?
Vous avez assez bien résumé l'ensemble du spectre. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on dit souvent que les écologistes sont connus par leur manière de faire en fait de la guerre sur la... Je dis bien guerre parce que ça a quasiment un aspect guerrier. De laisser rien passer au niveau du juridique. C'est pourquoi ils font beaucoup de recours. Ils sont souvent dans des procès. Ils utilisent aussi beaucoup les médias, alors les formes de médias, on va dire traditionnelles, en tout cas mainstream, mais aussi et de plus en plus maintenant évidemment les réseaux sociaux, les nouvelles formes de médias activisme. Donc ça c'est un peu leur ADN. Plus aussi, c'est vrai qu'on a peut-être un peu oublié l'expertise scientifique. Ils font beaucoup, ils développent beaucoup de contre-expertises scientifiques pour démontrer que d'abord qu'ils sont capables d'avoir de l'information et puis aussi de contester parce qu'il y a un certain nombre de militants qui sont aussi, bien dotés en diplôme et en compétences scientifiques pour contester des décisions qui ont été prises en oubliant soit un aspect environnemental, soit un aspect technique. C'est né aussi des mobilisations anti-nucléaires. Pour être anti-nucléaire, il a fallu d'abord montrer que le nucléaire n'était pas, aussi efficace et aussi positif que ce que voulaient bien dire, les pouvoirs publics. Donc, il y a vraiment toutes ces dimensions-là. Ils font souvent feu de tout bois, pour arriver à leur fin. Et puis, il y a la désobéissance civile. Mais la désobéissance civile, ça ne veut pas dire que quand on utilise la désobéissance civile, on n'utilise pas toute cette palette, d'actions. On utilise aussi la science, bien souvent. On utilise aussi, les militants utilisent énormément les questions de droit. La désobéissance civile, d'ailleurs, est souvent légitimée comme étant l'arme, la dernière arme, quand toutes les autres n'ont pas été entendues ou ne sont pas assez efficaces.
Un peu en désespoir de cause, c'est souvent ce qu'on entend dans certaines justifications utilisées par les militants. Pour donner un exemple sur le côté contre-expertise scientifique, on peut repenser là aussi à Eaux et Rivières de Bretagne qui, il y a quelques temps, avait mené une étude de la qualité des eaux et avait alerté, notamment au moment de la saison touristique, sur les plages un peu rouges en termes de qualité des eaux et qui avait aussi intenté une action contre l'Agence régionale de santé. Voilà pour l'exemple. Vous avez parlé de désobéissance civile, on y arrive. C'est un sujet auquel vous avez consacré un ouvrage en 2012, il y a donc plus de 10 ans avec un chercheur britannique. Ce terme de désobéissance civile, il a été utilisé pour la première fois par un philosophe, Henri David Thoreau. C'était au 19e siècle. Et aujourd'hui, lorsque la désobéissance civile fait l'objet d'un article dans la presse, bah, je vais prendre l'exemple plus récent avec cet épisode mi-happening, mi-sabotage à la fête des Lumières durant le week-end qui a été revendiqué par les soulèvements de la Terre.
La fête des Lumières bat son plein lorsque des milliers de personnes sont interloquées par des projections imprévues. Non à l'état policier, entre autres slogans hostiles à la police et au Rassemblement national.
Eh bien, les pouvoirs publics, mais aussi une partie des citoyens, semblent en partie découvrir ce type d'action. Rappelons donc à la lettre D pour désobéissance civile que l'histoire justement de ce mode d'action a une histoire, en tout cas pas tout à fait récente.
Ah non, pas du tout. Alors, évidemment, l'origine de la désobéissance civile sur la question même, on peut dire, des discriminations, parce que clairement, que ça soit, alors, on renvoie quand même aux grandes figures qui sont souvent nommées comme Gandhi ou Martin Luther King, et on peut dire aussi Rosa Parks, hein, pour être un peu féministe. En tout cas, toutes ces personnalités, elles étaient vraiment sur le volet de la discrimination, mais elles étaient aussi sur un volet qui ressemble beaucoup à ce qui se produit en ce moment dans l'écologie. C'est-à-dire, je dirais, un moment où les luttes sociales en matière de discrimination n'aboutissaient pas et qu'il fallait rentrer dans une radicalité pour faire, on va dire, éclater le système, ou aussi l'interroger sur ses fondements, l'interroger aussi sur le fait que, voilà, ils prenaient pas vraiment en compte leurs revendications. Alors, je vais aller assez vite parce que là, c'est pas totalement l'objet de faire toute l'histoire de la désobéissance civile. Mais en tout cas, elle a été utilisée aussi par les écologistes quasiment, alors pas dès leur naissance au sens strict, mais en tout cas, par des ONG pacifistes et écologistes nord-américaines comme Greenpeace, qui ont été les premières vraiment parler de désobéissance civile. Et dans la désobéissance civile, il y a l'idée de l'alerte, il y a l'idée de la radicalité aussi, parce qu'on transgresse des lois, on transgresse des règles, mais pour interroger les États, pour interroger le fait qu'il se passe des choses paradoxales, on va dire, dans une société. Et là, pour Greenpeace, c'était déjà sur les essais nucléaires, puis après sur la protection notamment des espèces en danger comme la baleine, les phoques ou autres espèces qui normalement étaient protégées. Donc à chaque fois se rejoue un peu la même chose. Alors, pour être très clair, j'ai pas vraiment suivi toute la polémique de ce week-end, et qui est sans doute à l'œuvre en ce moment, mais l'idée que c'est nouveau, en rupture, c'est pas si nouveau que ça. En revanche, peut-être quand même, en ce moment, il y a une réinvention des pratiques, c'est-à-dire que pas une réinvention au sens où c'est nouveau, mais une réinvention parce qu'il y a d'autres outils, on va dire, de puissants pour faire la désobéissance civile. Du temps, je dirais, de Martin Luther King, on n'aurait peut-être pas utilisé les mêmes manières de faire la désobéissance civile, même si l'idée générale est la même, c'est-à-dire de faire réagir aussi l'opinion publique sur quelque chose qui paraît, interpeller la société, ou du moins un pan de la société.
Pour la définition, histoire de la redonner, donc la désobéissance civile, elle peut être définie comme un acte explicite de violation d'une loi ou d'une norme sociale dans le cadre d'un assentiment général au principe de la légitimité des lois, avec cet objectif de mettre fin à un déni d'égalité de droit ou d'alerter sur une problématique. Il y a donc plusieurs choses qui sont réunies. Il y a la dimension collective, on n'est pas tout seul à revendiquer quelque chose pour soi et pour son intérêt. Dimension réflexive aussi, et puis de mise en question de certains principes bien ancrés, notamment juridiques. Et puis dans un souci du bien commun, ça peut peut-être permettre de répondre au poncif suivant. Si chacun désobéit pour ce qu'il estime juste, on s'en sort pas. La définition, elle permet d'amener des réponses à cette phrase-là.
Oui, vous avez tout à fait raison. Après, il y a des penseurs, hein. Alors moi, je suis plutôt sociologue et moins philosophe, mais il n'empêche que j'ai quand même lu les philosophes et des théoriciens du politique comme Hannah Arendt, qui ont très bien défini la désobéissance civile, en expliquant bien d'ailleurs, elle est obsédée par la question de l'obéissance. Elle a travaillé sur les totalitarismes, le nazisme, etc. Et elle explique bien que la différence entre en gros un criminel et un désobéissant, c'est que le désobéissant interpelle pour un intérêt général et, comme vous avez dit, pour un collectif, et interpelle la société dans le cadre d'une reconnaissance de la légitimité de la démocratie. pour eux, la démocratie existe et elle doit être défendue. Alors que le criminel, bah, il, en gros, il joue pour lui-même, voilà, et de manière, je dirais, pas forcément altruiste. Et puis, clairement, la question de la démocratie n'est pas son enjeu principal. Donc, il y a bien un enjeu autour de la question démocratique avec la désobéissance civile.
If you must go, go with the wind, and I'll stand outside trying to feel you in. If I must cry, I'll cry in the breeze, and from my lips to the stars I'll make a burning light to keep you warm.
C'était Julie Sharp avec le morceau Burning Line, un morceau tiré de l'album du même nom. Et c'est le premier disque pour cette artiste toulousaine, disque sorti le 24 octobre chez Only Lovers Records. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée pour vos oreilles par celle de Yann Barbotin, programmateur musical de la radio associative rennaise Canal B. Vous écoutez Vers des Terres, sur Canal B peut-être, ou bien sur Radio Boa à l'échelle bretonne, peut-être même en ligne sur Deezer. On reprend l'interview qu'on a débutée avec Sylvie Olitreau, politiste et directrice de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Ce qu'il est intéressant de rappeler, c'est aussi que depuis 2001, la désobéissance civile est protégée par une convention internationale qui est la convention d'Aarhus, convention qui se trouve être ratifiée par la France en 2002. Désobéissance civile, ça ne veut pas forcément dire action violente, il faut le répéter. En tout cas, si on entend la violence comme une force qui est utilisée contre les personnes, en lien peut-être avec le dictionnaire d'écologie politique qui vient de paraître, est-ce que justement l'acception de ce qui est violent ou non fait débat au sein de la communauté des chercheurs et chercheuses ?
Wow. Évidemment, au niveau de des chercheurs, énormément. C'est pas tellement, je pense, en fait, l'enjeu au niveau de la violence, c'est surtout que, bien souvent, et moi-même, j'en fais partie, je me garde bien d'expliciter ce qu'est peut être la violence, parce que la violence, c'est très, construit socialement, et il y a des phénomènes qui sont qualifiés de violents dans une époque et qui ne le seraient pas dans une autre époque. Moi, comme je fais de la science politique, je suis quand même beaucoup plus, d'un point de vue de l'analyse politique, justement, j'observe surtout comment est qualifié un acte, et notamment un acte d'agressivité ou un acte politique dans un contexte donné. Et ça peut être très variable d'un moment à un autre. Ça remet pas du tout en compte ou en cause le régime démocratique. On peut très bien être dans un régime démocratique, mais estimer que tel acte devient violent ou est criminalisé et un tel autre ne l'est pas. Donc tout dépend aussi de la législation. Donc ça, c'est pourquoi la question de la violence, alors, en même temps, il y a quand même des définitions, et par contre, on sait ce que c'est que, on va dire, un acte radical violent, qui amène, on va dire, de la terreur, et là, c'est ce qu'on appelle le terrorisme, et là, dans ce cadre-là, évidemment, les moyens sont différents, puisque les moyens, c'est surtout de construire la terreur dans une société. Et construire une terreur dans une société, c'est souvent par des attentats qu'on a connus, hein. On sait ce que c'est que un acte terroriste au sens classique, c'est-à-dire un acte de déflagration qui va aussi terrifier l'opinion publique et qui a pour fin aussi de transformer la société si on veut aller jusqu'à cette transformation, soit au moins peut-être affaiblir un État ou affaiblir un type de système politique. Mais clairement, la question de la violence, elle est très compliquée à définir en soi. Il n'y a pas de violence en soi. Mais en réalité, parmi les écologistes, il y a énormément de controverses entre eux sur l'usage de la bonne violence, on va dire, ou du bon usage de la bonne violence, parce qu'évidemment, dès qu'on perturbe un ordre public, d'une certaine manière, on peut être qualifié de violent, au sens d'une violence même symbolique. Puisque on peut dire aussi que la violence peut être symbolique, ou la construction de la violence peut être symbolique, mais cet usage parmi les écologistes est quand même très très cadré, on va dire, jusqu'à maintenant. Je veux dire, jusqu'à maintenant, et en tout cas moi je n'ai pas entendu autre chose que parmi les écologistes, il y a une certaine en tout cas réflexivité, on va dire, sur l'idée du sabotage et du sabotage des biens. Et l'idée, c'est toujours de protéger le vivant, et le vivant sous toutes ses formes, c'est-à-dire à la fois, le vivant évidemment humain, mais même le vivant non humain. L'idée, c'est vraiment la protection du vivant. Donc, par contre, c'est vrai que tout ce qui est l'objet technique, l'objet, aménageur, etc., apparaît être une cible légitime, enfin pour certains groupes et dans certaines conditions.
Donc quelques exemples justement de désobéissance civile plutôt non violente, avec des exemples de ces dernières années. On pense aux militants du mouvement Just Stop Oil, qui avait fait l'objet de nombreux articles et de réactions à la fois politiques et médiatiques, qui avaient aspergé des tableaux, on le précise, qui étaient protégés par des vitres, mais aspergé donc des tableaux de sauce tomate. Ils ont depuis arrêté leurs actions. Également, ces scientifiques qui ont collé leurs mains sur une voiture dans un salon BMW et puis bloqué la circulation, ça c'était à Munich en 2022. Il y a quand même une partie des militants écologistes qui revendiquent une forme d'action ouvertement violente. En témoigne l'usage régulier du Black Bloc dans les manifestations. Le Black Bloc, s'il faut le redire, c'est pas un mouvement défini, mais une tactique, celle de constituer un groupe vêtu de noir sous couvert d'anonymat pour viser des symboles du capitalisme et puis affronter la police. Il y a un professeur de sciences politiques à l'Université de Québec qui s'appelle Francis Dupuy-Derry, qui rappelle que souvent il y a des lancers de bouteilles et aussi de cailloux, voire de cocktails Molotov, jamais d'armes à feu. Ces militants, si on les écoute, ils justifient l'usage de la violence dans une situation d'urgence, un peu comme ce qu'on a dit avant, et aussi comme une pratique réflexive de la violence qui est jugée légitime, celle des forces de l'ordre ou celle des manifestants. Donc là aussi, il y a une réflexivité là-dessus.
Alors moi, je connais pas le mouvement des Black Blocs, enfin pas au point, je veux dire, d'en faire une analyse très concrète. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les Black Blocs sont souvent présents lors des manifestations écologistes, ou enfin sur les questions d'écologie. Ce qui fait qu'il y a un mélange de genres, et ce que je sais quand même, c'est que la plupart des écologistes, enfin des ONG, etc., essayent quand même de se distinguer, comme vous avez dit, de cette tactique, parce qu'elle est style un peu contre-productive, produisant une transformation des images aussi, parce que la plupart des ONG ont quand même une image aussi à garder au sein de l'opinion publique, et ils trouvent que c'est souvent contre-productif d'aller vers, même si c'est de la violence symbolique, comme vous le dites, ou même si c'est de la violence gérée, maîtrisée, et puis avec certaines cibles, y compris la violence contre la police, n'est pas du tout légitimée de manière en tout cas globale dans le milieu écologiste. Après, évidemment, il y a toujours possibilité qu'il y ait des groupes qui peuvent s'en rapprocher. Mais et puis la différence aussi qui reste assez forte dans le mouvement écologiste, c'est l'idée quand même de manifester à visage découvert, ou sinon si c'est pas découvert, en tout cas de pas être dans le même, j'irais, présentation de soi que les Black Blocs, qui ont quand même leur modalité aussi de présentation de soi. Et ça fait pas débat, c'est simplement ce sont des groupes qui coexistent, mais qui n'ont pas forcément les mêmes tactiques et qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, on peut dire, d'un point de vue même idéologique. Ils ne sont pas forcément. Parmi les écologistes, en ce moment, il y a beaucoup de réflexivité sur les violences policières parce qu'il y a eu des moments où voilà, ça a été très tendu et il y a eu vraiment des blessés, hein, et notamment après la mort de Rémi Fraisse. Donc il y a une grosse réflexivité sur les violences policières, mais en soi, les mouvements écologistes ne font pas de la police un ennemi. Enfin, c'est pas dans leur dynamique d'action.
Donc on le rappelle, Rémi Fraisse, militant écologiste, qui est décédé en 2014 lors d'une manifestation contre le barrage de Sivens. Peut-être que cette technique, elle nous permet de redire que si on prend un peu de recul sur l'histoire des mobilisations sociales et notamment écologistes, tous les mouvements sociaux ont connu des ailes justement radicales. On parlait de Gandhi tout à l'heure pour le citer, que ce soit sur le mouvement indépendantiste en Inde, le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, ou on cite aussi les suffragettes au Royaume-Uni pour le droit de vote. Les actions violentes ont souvent joué un rôle, en tout cas, dans l'avancée des mouvements sociaux.
Alors, en tout cas, dans les mouvements sociaux, il y a toujours un moment où ça se radicalise, enfin, d'une manière ou d'une autre. Ça dépend aussi, alors, faut pas avoir que le point de vue du mouvement social, il faut avoir le regard aussi des institutions. Il y a quelquefois un jeu des institutions aussi à diviser les bons des méchants, on va dire, pour cibler certains pour peut-être déqualifier l'ensemble. Donc parfois aussi on est dans un système de ce type-là. Ça veut dire la radicalité, elle existe parce que on la fait vivre aussi par rapport aux institutions. Et donc c'est ça qui fait aussi peut-être tout mouvement social. On sait très bien qu'il y aura des formes de radicalité, il faut vivre avec. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a 15-20 ans, quand je faisais les mêmes, je voyais, enfin pas forcément les mêmes, parce que c'était pas la même génération, mais les mêmes associations, elles avaient beaucoup moins de crainte de construire des manifestations dans l'espace public, elles se sentaient moins surveillées, elles se sentaient moins réprimées. Et donc, du coup, elles étaient beaucoup plus en dialogue avec les institutions. À partir du moment où les institutions commencent, soit à mettre à l'écart, soit à ne pas écouter, soit à construire des espaces de concertation qui n'aboutissent pas à une transformation, on va dire, de la politique publique, bah, il y a des effets évidemment sur le mouvement social qui peut se radicaliser.
Eh ben c'est parfait, ça m'amène à ma dernière question, à savoir que donc en 2022, certains se rappellent peut-être que le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est depuis passé à la justice, Gérald Darmanin, qualifiait les militants de Sainte-Soline, ou en tout cas le mouvement à Sainte-Soline, d'éco-terrorisme. C'était pas le début finalement de la montée en pression sur les activistes, puisque déjà quelques années plus tôt, les décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron en 2019 se voyaient assignés en justice. Mais en tout cas, il y a eu un mouvement de montée en pression sur ces activistes, avec une répression qui est devenue plus forte. Vous étiez justement la semaine dernière à un colloque sur la répression du militantisme écologique à l'échelle de l'Europe, du côté de l'université d'Angers. Une répression qui s'exprime de différentes façons dans la sphère peut-être institutionnelle, mais même plus largement dans l'espace public. Il y a des actions en justice, des retraits de financement pour certaines structures. On pense aussi au fichage de certains militants. Ils sont 2000 militants écologistes fichés S. Et puis des violences physiques qui peuvent s'exprimer à différents endroits. Encore le mois dernier, il y a ce naturaliste Pierre Rigaud qui est engagé contre la chasse, qui a été agressé alors qu'il suivait une chasse à cours. On dit un mot sur cette montée de la répression contre les militants ?
Oui, bah écoutez, en tout cas, c'est ce qu'on constate. C'est pas singulier ou spécifique à la France. En tout cas, ça s'observe un peu partout. J'ai même vu, là, c'est Amnesty International qui a posté cette information ce week-end, que, y compris, hein, je vous donne justement bien loin de chez nous, mais en Cambodge, il y a eu la même chose, des jeunes produisant, je dirais, une action de désobéissance civile, mais c'était plutôt non-violente, pacifique, etc., qui se retrouvent aussi poursuivis et, il me semble, emprisonnés. Il y a eu aussi un certain nombre de militants au Brésil. Alors au Brésil, ça va un peu plus loin, puisqu'il y a des assassinats de militants, enfin, on peut dire assassinats, puisque des personnes qui se retrouvent bref, des militants qui disparaissent bizarrement et qui parfois sont tués. Alors en France, pour l'instant, c'est plutôt l'intimidation, mais c'est vrai qu'il y a une polarisation de plus en plus forte. Alors sans doute peut-être aussi lié, moi je regarde toujours le côté positif, y compris dans l'opinion publique, les questions écologiques motivent beaucoup. Enfin, on n'en parle pas, mais il y a quand même une prise de conscience assez forte qu'il y a des questions de réchauffement climatique qu'il va falloir régler. Il y a aussi des groupes d'intérêt ou des mouvements, on va dire, sociaux, mais adverses, qui, par ailleurs, je sais pas, ne veulent pas y croire ou ne veulent pas se réformer. Et du coup, ça polarise énormément au point que, alors moi, je pense que c'est plutôt dans l'espace rural, d'ailleurs, que se jouent souvent, des phénomènes d'intimidation auprès des militants. Et puis, ce qui est un peu plus grave, c'est quand ce sont les États qui eux-mêmes créent, je dirais, un appareil répressif. Parce qu'évidemment, quand les États créent un appareil répressif, d'une certaine manière, là, ça a une autre consonance, on va dire, plus forte que lorsque c'est juste des interactions entre groupes sociaux et qui n'ont pas la même opinion. Et en Grande-Bretagne, vous parliez tout à l'heure de Just Stop Oil, il faut se souvenir que les militantes sont emprisonnées, enfin elles sont incarcérées en ce moment, et pour avoir fait juste une action, pas de passé militant criminel ou criminalisé, et de plus en plus les peines s'alourdissent, y compris en amende. Et ça aussi, c'est un autre phénomène. Vous dites qu'en ce moment, il y a une accalmie, on va dire, sur le volet de la désobéissance civile, ou du moins certains groupes y renoncent, parce que ça a un poids énorme sur, on va dire, leur financement et sur les militants eux-mêmes, qui au fur et à mesure se retrouvent soit criminalisés, soit un peu épuisés par leur activisme.
Sylvie Olitreau, je vous représente, vous êtes donc politiste, directrice de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, et vous avez dirigé avec 5 autres chercheurs-chercheuses la publication d'un dictionnaire de l'écologie politique. C'est paru au mois d'octobre aux presses de Sciences Po, et on y retrouve donc une centaine d'entrées qui ont été rédigées par 150 chercheurs et chercheuses pour, je cite, « exposer la pluralité des concepts, idées et résultats développés par la science politique et les disciplines connexes sur ce sujet ». Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On On arrive tranquillement à la fin de l'émission et il nous reste quelques minutes pour une recommandation. À chaque fois, ce sont des conseils de contenu à vous mettre dans les yeux ou dans les oreilles. Et tant qu'il y a des documentaires de qualité en libre accès chez France Télévisions, eh bien profitons-en. Marseille, des larmes au combat, c'est un documentaire d'Anaïs Mérade réalisé en 2024. On y suit le combat d'Amine Kessassi, militant écologiste d'une vingtaine d'années. Un premier de ses frères a été assassiné en 2020, victime d'un règlement de compte en lien avec le narcotrafic. Et le 13 novembre 2025, là, Amine Kessassi a perdu un deuxième frère tué par balle, lui inconnu des services de police. Le procureur de la République de Marseille, Nicolas Besson, a expliqué que l'hypothèse d'un assassinat d'avertissement n'était à ce stade absolument pas exclue. C'est en hommage à Mehdi Kessassi que France Télévisions rediffuse ce film documentaire en ce moment. Film où on découvre la détermination de son frère, donc le militant Amine, son sens du contact aussi, avec toujours un objectif en tête, tout faire pour lutter contre les ravages du trafic de stupéfiants sur les habitants des banlieues marseillaises. Dans le film, qui dure 50 minutes, le jeune homme défend la nécessité d'investir dans ces quartiers populaires, à la fois dans l'éducation mais aussi la culture. Il plaide également pour le retour de la police de proximité ou encore des expérimentations autour de la légalisation du cannabis. Le film n'évite pas les questions douloureuses, avec par exemple la voix de cette mère dont le fils est en prison pour trafic de stupéfiants et une peine qui ne semble pas résoudre son comportement délictueux. Autre sujet intéressant, c'est celui des difficultés à porter une voix collective entre certains habitants qui réclament une réponse uniquement judiciaire et plutôt répressive et d'autres qui, comme Amine, sont porteurs d'un discours plus politique et social. On précise que le jeune homme est aujourd'hui encarté chez Europe Écologie Les Verts. Marseille, des larmes au combat, c'est un film documentaire à voir jusqu'au 22 décembre en libre accès sur France.tv.
C'est ça, les morts continuent et nous on est encore là en train de constater ça, nous on est encore là habitants en train d'assister à ces scènes de guerre, on est encore là nous en tant qu'association à compter ce nombre de victimes, ça n'arrête pas d'augmenter. Macron est venu à Marseille, il a annoncé des mesures supplémentaires, rien n'a changé, au contraire il y a plus de morts qu'avant. C'est des kalachnikovs, c'est des grosses armes qui sont utilisées pour ces meurtres. C'était 19h dans un bar, dans une rue qui est très fréquentée, donc aujourd'hui il n'y a plus rien, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de code, il n'y a plus rien qui freine ces assassins, donc par conséquent on estime que des moyens sans précédent doivent encore être débloqués pour notre ville, et il est hors de question que nous habitants on se résigne à vivre comme ça, donc il faut encore agir plus que jamais.
C'était le troisième épisode de Vers des Terres, j'espère que ça vous a plu. Vos retours sont les bienvenus par email à l'adresse lucie.louapre@gmail.com. Vers des Terres, c'est une émission à écouter chaque mois sur Canal B pour Rennes, Radio Boa à l'échelle de la Bretagne et en podcast sur Deezer. On se retrouve en janvier, le 9, vendredi 9 à 13h, en tout cas pour la diffusion rennaise du côté de Canal B. D'ici là, prenez soin de vous envers et contre tout. Salut.